Radio Foot International.
Christophe Jousset.
Bonjour, bienvenue dans Radio Foot. C'est la folie autour de Pascal Duprat. Il a été nommé il y a 2 mois et demi pour sauver Toulouse de la relégation. Mission accomplie in extremis samedi soir grâce à un succès à Angers. Le discours d'avant-match qu'il a tenu aux joueurs restera dans les annales.
Vous méritez de vous maintenir. Ça fait 2 mois et demi que je vous dis que vous allez vous maintenir. Le problème, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas demain.
« Je vous aime », a dit aussi Duprat à ses joueurs. Et aujourd'hui, tout le monde aime Duprat, n'est-ce pas, Hervé Penaud ?
Oh oui, on l'aime tous. Vive Duprat !
Bonjour. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Philippe Bouchard aussi, vous aimez Duprat ?
Ah bah c'est forcément une belle histoire.
Oui.
Après, le personnage, il a quelques aspérités, je pense.
J'aime bien le « après ». Bonjour Dominique Sévrac.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
Vous kiffez Dominique
Duprat? Je me kiffe,
Duprat, oui.
Je me kiffe à mort, mais... Ouais.
Moi, je kiffe plus Dominique que Duprat, attention.
Mais non, c'est une belle histoire pour les journalistes, c'est un bon client, donc les journalistes aiment ça.
Bon, ça tombe bien, il y en a quelques-uns des journalistes dans ce studio. Vous aimez aussi écrire, Dominique Sévrac?
Ça peut m'arriver.
Il est payé pour ça.
C'est votre métier. Et comme vous ne pouvez pas tout écrire non plus dans Le Parisien, non pas parce que c'est interdit, mais parce que vous manquez de place parfois.
C'est vrai.
Eh bien, vous venez de publier un livre qui s'appelle « La face cachée des Bleus » aux éditions Mazarine. Une bonne façon de préparer l'Euro qui débute dans 25 jours aujourd'hui. Nous avons lu ce livre, entretien à suivre avec l'auteur. Ah. De la joie à Toulouse samedi soir, de la joie aussi au Parc des Princes. Le PSG a fini son championnat en beauté en battant Nantes et Ibrahimovic a fait des adieux au public parisien, un doublé pour battre le record de Carlos Bianchi et un show Zlatan après le match aussi. Discours ému et mégalo, il part comme il était arrivé avec tous les projecteurs braqués sur lui. Si une fausse bombe n'avait pas été oubliée dans les toilettes d'Old Trafford, la première ligue serait terminée, elle aussi. Mais il y a eu cette boulette et Manchester United devra donc jouer ce mardi, ce qui ne changera rien à la 2e place d'Arsenal. Les Gunners sont finalement les dauphins de Leicester. Olivier Giroud a fini sa saison sur un triplé. L'Angleterre, où la préliste pour l'Euro est sortie il y a quelques heures, 26 joueurs, parmi lesquels Rashford, 18 ans. On en parlera avec Bruno Constant. Radio Foot préparé avec Jean-Pierre Bessière et Guillaume Ploquin. Nous sommes ensemble pour 45 minutes plus le temps additionnel. Quand il a été nommé entraîneur de Toulouse, le 1er mars, Pascal Duprat a pris un club qui accusait 10 points de retard sur le premier non relégable. Et jusqu'à présent, jamais une équipe n'était parvenue à revenir d'aussi loin et à se maintenir en Ligue 1. Eh bien, Toulouse l'a fait et depuis samedi soir, Pascal Duprat n'est pas loin de passer pour un sorcier parce qu'il a sauvé Toulouse, mais aussi parce qu'on sait à peu près comment il a fait pour sauver Toulouse. Les caméras de Canal+ ont capté la causerie d'avant-match. Calez-vous bien dans votre fauteuil et écoutez le coach qui parle à ses joueurs.
Pour réussir ce soir dans cette entreprise, il faut vraiment que vous soyez animé d'autre chose que vos qualités humaines. Un supplément d'âme. Encore une fois, je vais me foutre à poil devant vous. Je vais vous dire ce que peu de coachs disent, mais je m'en fous de ce que les autres disent. Moi, je vous aime. Ce que vous accomplissez, c'est juste gigantesque. Vous méritez de vous maintenir. Ça fait 2 mois et demi que je vous dis que vous allez vous maintenir. Le problème, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas demain, c'était pas hier, c'est maintenant. C'est magnifique, juste avant de partir en vacances. Au dernier moment, on passe la tête. Et ce qu'il y a de bien, c'est que je suis pas le seul à vous aimer. Les supporters, ils vous l'ont montré. Qui aiment bien, châtie bien. Ils vous ont un peu châtié. Depuis quelque temps, ils vous montrent qu'ils vous aiment. Allez, d'accord, c'est pas le plus important. Maintenant, le plus important, c'est ce qu'on va voir ensemble. Parce que là, pour sûr, ce qu'on va voir, c'est des gens qui vous aiment. Et si l'un d'entre vous sort de cette salle après avoir vu ces images et me dit qu'il n'est pas convaincu qu'on va les torcher, on a besoin que de nous pour se maintenir.
Ben ça fait de l'effet jusqu'à aujourd'hui. Là, quand je vous regarde, vous êtes tous comme les joueurs. Vous regardez le bout de vos souliers. C'est impressionnant. Quel acteur, vous vous dites quel acteur, quel entraîneur?
Non, je me dis surtout, Hervé, c'est que pour une fois, on a des caméras dans un vestiaire. Parce que c'est assez, je ne dis pas courant, mais ça arrive assez souvent, ce type de jeu sur l'affect. C'est-à-dire essayer de pousser les joueurs dans un dernier retranchement. Mais c'est un double effet. Il faut faire attention. Là, aujourd'hui, il y a la qualification. Il y a le fait d'avoir gagné à Angers, le maintien. Voilà. Il y a le maintien. Et donc, tout le monde dit qu'est-ce que c'était génial comme discours. Mais ouais, il y a un contre-discours, j'allais dire. Parce que la première mi-temps, elle était très difficile pour les joueurs de Toulouse. Et au contraire, c'est au moment où il a fallu mettre un peu de rationalité à la mi-temps qu'ils ont pu retrouver leurs esprits. Ça m'a rappelé à l'époque le discours de Bernard Laporte quand il avait pris la lettre de Guy Moquet, la fameuse lettre. Mmh. Il avait parlé à ses joueurs de l'équipe de rugby et d'un seul coup, puisque les joueurs avaient perdu, au final, on avait expliqué qu'on avait trop motivé les joueurs, on avait joué sur les émotions. Ouais. Et là, c'est un peu le cas de figure. C'est-à-dire que l'irrationalité, à un moment, faut faire attention.
Moi, quand j'ai vu la causerie, à un moment donné, donc, il y a une vidéo qui passe avec la famille qui parle aux joueurs. Je me suis dit, ça peut complètement les vider, quoi.
Oui, c'est-à-dire que
je précise pour ceux qui ne butent très, très mal le match.
Ouais, c'est ça. Exactement. Je précise pour ceux qui ne l'ont pas vu que, effectivement, derrière, on n'a pas pu tout mettre parce que ça dure longtemps. Et derrière, effectivement, il y a une petite séquence vidéo qui est projetée aux joueurs. Certains enfants de joueurs qui s'adressent directement à eux pour les motiver et on voit quelques joueurs verser quelques larmes.
Bah c'est ça et ça je me dis c'est comme il faut plutôt des ondes positives et des sensations positives, ça peut être négatif parce que ça peut vous inhiber. Moi c'est plus sur le parce qu'il y a eu les caméras ont suivi Dupraz toute la soirée et c'est plus sur le banc quand il dit je le sens le petit gaucher là, celui qui va marquer le troisième but.
On va y revenir
intuition de malade, plus que cette causerie, parce que déjà, j'ai pas cette causerie en référence pour juger si elle est exceptionnelle.
Non, c'est un ressort qui est souvent employé par les entraîneurs. Il y a même le Nigeria, Bora Milutinovic, là, le coach du Nigeria en 98, avait fait ça quand le Nigeria bat l'Espagne au premier tour. Il bat l'Espagne 3-2, si je me souviens bien. Et juste avant, il avait montrer une vidéo avec les familles, les enfants qui encourageaient les joueurs. C'est un vieux ressort de coach classique. Après, là où Dupraz, il a une force, c'est que depuis le début, il leur dit que c'est possible. Il leur montre le 4x400 là, des filles.
Des championnats d'Europe, des derniers championnats d'Europe avec le dernier tour de piste de Floria Gay.
Voilà. Il y a une remontée incroyable. Donc, depuis le début, il leur dit on y croit, c'est possible. Et il n'est pas juste là pour sauver les meubles. Voilà.
Hervé Renard, par exemple, avec la Côte d'Ivoire, il utilisait beaucoup ces ressorts-là. Il utilisait des images. Alors, c'était pas le 4x400, ça a été le 4x100 en natation, ça a été, etc. Sortir des moments positifs pour dire aux joueurs, allez, vous pouvez le faire, vous êtes capable de le faire. Mais je suis tout à fait d'accord avec Dominique, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que finalement, le moment où c'est le plus intéressant, c'est quasiment la rationalité du discours à la mi-temps. Attention, on apaise tout. Et là, on revient sur quelque chose de plus concret, hein. Les émotions, ça passe au second plan. Et après, c'est l'intuition, l'irrationnel, si vous voulez. Moi, on dit, tiens, je sens qu'il va marquer. Et le fameux buteur, Bodiger, n'est quelqu'un qui ne tire jamais un coup franc. Ouais. Jamais, absolument jamais.
Mais alors, sur cette mi-temps, on a aussi pu entendre une partie du discours à la mi-temps, alors que son club était mené un but à zéro, et on entend Dupraz dire à ses joueurs, est-ce que quelqu'un ici n'a jamais réussi à remonter un but? Donc, il était encore dans cette veine-là.
Il leur demande de répondre, parce que les mecs répondent pas.
Oui, parce qu'ils répondent pas.
Les mecs répondent pas, et il leur repose la question, et là, on entend 3-4 voix qui dit oui. Mais moi, à la limite, c'est peut-être pas tellement ce match, même si ce match, il est fantastique, c'est un des plus renversants de la saison. C'est les 10, parce que ce qui s'est passé à Saint-Étienne.
Sur cette causerie, quand même, parce que Wissam Ben Yedder, qui fait partie de cette équipe de Toulousaine, il a tweeté « Je suis content que tout le monde ait pu voir le speech du coach », donc le discours de l'entraîneur en français. « C'est un moment inoubliable, franchement, merci à lui ». Donc, c'est un témoignage de l'intérieur.
Mais complètement, mais je suis pas sûr que Dominique Arribagé aurait pu.
Le prédécesseur
de Pascal Dupraz aurait pu trouver ce genre de mot-là. Parce que Dupraz, c'est un coach expérimenté. Parce qu'il l'a fait la saison dernière, justement, la dernière journée, contre le Sochaux d'Hervé Renard.
Il y a deux ans.
Oui,
trois. Il y a deux ans. L'année dernière, il descend.
Donc voilà. Donc il avait déjà eu cette expérience du 10e match, comme il disait depuis le début. Il fanfaronnait un peu avec ça. Donc voilà. Effectivement, que c'est extraordinaire ça.
Mais il faut pas oublier quand même que ça vient d'un fait précis. C'est l'écroulement total des équipes qui étaient devant, c'est-à-dire Reims qui ne mettait plus un pied devant l'autre, Ajaccio qui avait fait une bonne première partie de saison et qui s'est totalement écroulé. C'est-à-dire que 10 points de retard, vous pouvez pas les rattraper. C'est à moins de gagner tous vos matchs, mais ce qu'ils n'ont pas fait. C'était la première victoire à l'extérieur, quand même.
Ils ont pris 18 points sur 30 possibles.
Ils ont fait un super parcours.
Ils sont 5 ou 6e sur les derniers matchs.
5e, je crois. 5e, mais ils ont fait un super parcours retour. Il n'y a absolument rien à dire depuis qu'il est là. Mais il n'empêche que Reims a eu des résultats catastrophiques.
C'est aussi la faute de Reims, oui.
Alors, ils ont fini par s'imposer 3-2 à Angers, mais ils ont été menés deux fois au score. Ils ont, comme on disait tout à l'heure, raté un peu leur entame de match. Est-ce que c'est au contraire, je pose la question inverse maintenant, est-ce que c'est ce discours un petit peu trop
le poids de l'enjeu,
pressant?
Christophe, le poids de l'enjeu, vous jouez le maintien d'un club c'est, je pense qu'on peut pas faire abstraction de ça quand on est footballeur, quand on rentre sur un terrain face à une équipe qui joue le jeu, hein, parce que tout le monde n'a pas joué le jeu dans cette dernière journée. Suivez mon regard du côté de la Champagne. Alors que voilà, Angers a joué le jeu, donc ils ont même raté un penalty, nos amis toulousains. Donc vraiment, ça commence sur des bases apocalyptiques et ça finit de manière inespérée.
Alors on en revient à votre histoire de Bodigé, parce que c'est peut-être effectivement la plus belle histoire.
Ouais, c'est ça.
On a capté, grâce à Canal et encore une fois, sur le bord du terrain, ces allées et venues de Duprat, qui est vraiment confronté à une situation où ça va mal, il va falloir marquer, et il se tourne vers son banc et il dit « Je ne sais pas pourquoi, j'y réfléchis depuis tout à l'heure, Bodigé et sa patte gauche, je ne sais pas pourquoi j'ai ça dans la tête. » Il va le faire rentrer, et c'est Bodigé qui va marquer, à 21 ans, son premier but en Ligue 1, et le but qui sauve son club.
Et il le marque parce que Trérot dit « Ah, je le sens pas de tirer ce coup franc », alors que c'est lui qui tire tous les coups francs, il dit « J'en ai raté 2-3, dans lequel il dit « Tiens, vas-y ». Donc si quelqu'un qui ne tire jamais, il rentre. Alors là, c'est l'intuition, et là, c'est un coup.
Ouais,
alors là, c'est un coup à Duprat.
Il y a sorti ou pas là ?
C'est le feeling.
C'est aussi le résultat de 3 mois, un peu moins de 3 mois, où il y a un entraîneur qui dit j'ai confiance en vous, vous allez le faire, vous pouvez le faire, ça va marcher, on va y arriver. C'est aussi la constance de ce discours-là et de transmettre la confiance, parce que sans doute Pascal Duprat doute-t-il aussi en son fort intérieur.
Bien sûr, bien sûr.
Mais jamais il n'affiche ses doutes. Et en permanence, il transmet de la confiance, de la force. C'est ça aussi son boulot.
Petit bémol quand même, c'est que pour connaître par exemple Thierry Loret a eu exactement le même discours avec ses joueurs.
Exactement.
C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez une bataille de 3 coachs aussi à Reims. À Reims, c'est un peu différent. Ils ont pris le gars du centre de formation, qui est là un petit peu par hasard. Mais en ce qui concerne Thierry Loret et Pascal Duprat, ils ont eu exactement le même discours. C'est-à-dire que si Ajaccio s'était sauvé, on aurait pu dire de la même manière, l'oreille a toujours cru.
On parlait il y a deux ans, entre Sochaux et Evian, c'était pareil. Hein, le discours d'Hervé Renard, qui lui était l'artisan d'une remontada à peu près du même ordre, hein, pour Sochaux à l'époque.
Sûr.
Bon, évidemment, il leur a tenu ce discours-là qu'ils allaient y arriver. Bon, après, c'est du sport.
Et on se rappelle que sur ce dernier match, on a vu la causerie aussi d'Hervé Renard, mais de l'extérieur, on avait entendu qu'il y avait une causerie incroyable aussi. Les joueurs avaient dit, mais ils avaient envie de tout casser. Maintenant, vous cassez ou pas casser, il faut être sur le terrain et gagner. Hein.
Mais ce qui est troublant quand même, Dominique, c'est que Duprat a déjà fait ça, on en parlait, il y a 2 ans avec Evian. Donc, sauver un club de la relégation, ça fait 2 fois qu'il le fait.
Ouais, mais il y a 2 ans, il avait une sorte de finale contre Sochaux.
Oui.
Mais
c'était pas pareil.
Evian était toute l'année, avait oscillé entre la 15e et la 18e. Ils étaient
dans la position du chassé.
Ils étaient plutôt en train de tomber que de remonter comme Sochaux. Donc là, il a sauvé les meubles le jour J, il a réussi sa finale. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une constance sur les 10 matchs. Le match le plus abouti étant sans doute pas une victoire, mais le nul à Saint-Etienne, qui était l'équipe en forme à ce moment-là, qui est Saint-Etienne qui gagnait tout à ce moment-là.
Il peut y avoir
pour le final.
Et
là, ce jour-là, Toulouse fait vraiment un gros match et son discours à la fin est très positif encore. Alors que on peut croire que l'opération remontada va échouer à ce moment-là parce qu'il ne gagne pas. Quoi. Il y a le destin.
Il y a à Lorient, alors qu'ils menaient 1-0. Ouais. Toulouse, ils se font égaliser à la dernière minute. Moi, il y a plusieurs profils d'entraîneurs qui ont remplacé d'autres entraîneurs cette année. Il y a des pompiers de service, ils n'avaient pas tous le même profil. Et lui, c'est un vrai entraîneur. C'est-à-dire que quand à Reims, j'ai trouvé qu'on avait remplacé un pompier de service par un autre pompier de service. Ouais. Là, Duprat, c'est quelqu'un qui sait faire. Alors, il réussira pas tout le temps. Il faut pas qu'il se spécialise dans les.
C'est le risque qui le guette.
Attendez, Duprat, pour l'instant, il n'a pas montré non plus énormément de choses, je veux dire, dans beaucoup de clubs. C'est l'homme d'un club pour l'instant, il ne faut pas l'oublier. C'est quelqu'un qui a travaillé dans un club.
C'est marquant ce qu'il vient de faire là.
C'est exceptionnel. En plus, moi, j'apprécie beaucoup Duprat. Ce qu'a fait Antonetti, c'est très fort aussi. Antonetti pour ramener l'équipe à la 5e place.
Lille.
Avec Lille. Et Genesio, évidemment. Alors, Genesio, pareil. Genesio avait plutôt le profil du pompier de service, j'allais dire.
Ouais.
J'espère pour lui qu'il ne gardera pas ce profil-là l'année prochaine. Parce que c'est toujours difficile. C'est parfois, vous avez des bons résultats pendant 6 mois. Et puis après, ça devient un peu plus difficile.
On savait quand Arribagé a remplacé Casanova, que c'était qu'un pompier de service, par exemple. Ça, on le sait. Et là, ça rend un peu trop tardé à quelques minutes près. Parce que Toulouse, c'est 79e, 80e, les buts. Hein. Donc, à 11 minutes près, ça aurait pu se mordre les doigts quand même.
Ça s'est joué à très très peu de choses.
Et puis aussi à la question effectivement basiquement de l'effectif, hein, parce qu'on parlait de Thierry Loret du Gazélec tout à l'heure. Bon, il y a un effectif qui est quand même très très léger pour la Ligue 1. Toulouse, c'est limite aussi. Donc
il y a
je crois que la moitié.
Bon joueur,
oui, bien sûr, c'est au-dessus. Oui. Je suis d'accord, c'est au-dessus. Mais quand même, la moitié des buts marqués par Ben Yedder, à peu près.
Hein, partir,
46% de buts de Toulouse par Ben Yedder. Ça dénote quand même un déséquilibre important, sans faire injure à Ben Yedder, hein, qui est très fort, qui a réussi une très belle saison. Une de plus, je dirais même. Mais bon. Ça prouve quand même qu'il y a des manques dans cette équipe.
Oui, mais ils ont trouvé un petit gardien jeune qui a l'air pas mal.
Ça change beaucoup de choses.
Il y a des Braithwaite, en Ligue 1, c'est bien.
Il y a des bonnes pioches, on est d'accord.
Trérot, il peut lui arriver de faire des bons
matchs. S'ils veulent ne pas revivre ces épisodes-là.
Akpak Pro, il a eu
l'année prochaine. Il faudra faire un effort. C'est d'ailleurs toute la négo de Pascal Dupraz en ce moment, c'est d'avoir du recrutement.
Est-ce que les dirigeants peuvent faire autrement que de le conserver pour la saison prochaine?
Ça va dépendre de lui.
Oui, ça va, Pascal Dupraz.
Dupraz.
Ah bah Dupraz, ils vont le garder parce que je pense pas qu'il. Après, il y a beaucoup de coachs sur le marché.
Mais il y a un nom automatique. Hein. C'est-à-dire que le fait qu'il ait maintenu le club lui permet d'avoir une année supplémentaire. Donc il est en contrat jusqu'en 2019.
Et puis avec l'argent de Wissam Ben Yedder, qui peut partir à Lyon comme il peut partir en Angleterre, vous avez quand même peut-être 15 millions d'euros, peut-être 20, peut-être 10 si vous le vendez mal, et pouvez faire une équipe avec ça.
Mais l'enjeu pour lui, c'est d'arriver à bâtir un effectif qui non seulement va se maintenir, mais va pouvoir viser un peu plus haut, voire essayer de regarder un peu les coupes. Ou quelque chose comme ça. Là aujourd'hui, Toulouse, c'est quand même vraiment deuxième partie de tableau, quand même, sur le papier.
Ah oui. Alors, Toulouse est sauvé. Ceux qui descendent, bon, trois, c'était déjà...
Oui. C'est acté depuis longtemps.
Trois, Ajaccio et le Stade de Reims, qui est donc le grand vainqueur et aussi perdant, puisqu'ils ont battu l'Olympique Lyonnais.
Tous une pensée pour Olivier Pron.
4-1, oui, pour Olivier Répron, par exemple, supporter du Stade de Reims. Victoire 4-1, mais c'était avant qu'il fallait y penser, non? Avant ce match-là, parce qu'ils auraient gagné 18-0.
Ils ont perdu à 3, pour moi, qui a eu vraiment un basculement. Ils ont vraiment vécu des dernières journées apocalyptiques. On a vu Guégan après, dans la presse, dans l'équipe, avait quand même réglé quelques comptes. Il y a quand même un club qui va pas bien depuis plusieurs années, qui a fait plusieurs erreurs stratégiques et finissait par le payer quand même. Ce n'est pas que le résultat de cette saison et d'un mauvais management conjoncturel. Je pense qu'il y a des problèmes structurels dans ce club qui sont stigmatisés depuis longtemps.
Ouais. Le Stade de Reims qui retourne en Ligue 2, ce petit pincement au cœur.
La différence entre, à mon avis, Toulouse et Reims, un truc tout bête, mais enfin c'est pas tout bête, c'est énorme. C'est-à-dire qu'à Toulouse, ils ont enfin trouvé un gardien, alors qu'ils avaient des gars sans gants pendant des mois. Et aujourd'hui, à Reims, ça a été le chaos total. Ils en avaient trois, ils sont passés la balle. Il y a un but pris contre Marseille qui au final coûte très cher. Donc erreur sur erreur, à un moment vous le payez aussi.
Ouais, alors enfin, ils ont trois gardiens, ils ont deux présidents, ils ont usé trois entraîneurs. Cette saison, il y a un vestiaire qui est en permanence en rébellion depuis plusieurs années. C'est quand même un club qui vit mal. Et le paradoxe, c'est qu'il s'est doté cette année de belles infrastructures avec un centre d'entraînement tout neuf, nickel et très bien. Ils ont enfin un stade correct. Mais paradoxalement, la vie du club lui-même et la vie de l'équipe pro, elle n'est pas sereine depuis plusieurs années. Et je pense que c'est passé tout près là, déjà l'an dernier. Et depuis la mi-saison, on voit bien quand même que Reims a un beau profil de relégué.
En septembre, il y avait un Reims-PSG et Guégan, à la fin du match, il y avait eu un partout. Et il disait, on verra après Lyon, c'était deux matchs après, on verra si on joue vraiment l'Europe. C'était par rapport aux questions qu'on lui posait.
Exactement. Et voilà, donc vous voyez. La première équipe qui aurait pu battre Paris Saint-Germain, ça s'est joué à 6 minutes près avec le but de Cavani, après une faute d'Ibrahimovic sur Mandy. Voilà. Vivement la face cachée de Reims.
Non, mais le beau début de saison de Reims a complètement masqué les vrais problèmes de fond qui perdurent depuis plusieurs saisons maintenant.
Et Johnny Placide, vous parliez, Hervé, de gardien, le troisième gardien. Johnny Placide, il l'est moins parce que il l'a ouverte, comme on dit, et il a critiqué les dirigeant du Stade de Reims en disant qu'ils avaient une grosse part de responsabilité dans la descente. Il a raison, peut-être, mais il risque d'être sanctionné.
Qui a pris Vasseur l'année dernière?
Les dirigeants.
Qui fait n'importe quoi avec ce club depuis des années?
Les dirigeants.
Et le problème, c'est que personne ne les sanctionnera.
Voilà pour le bas de tableau. Oui, c'est eux les chefs.
Qui décident.
Voilà pour le bas de tableau de Ligue 1. On va remonter très très haut en début de deuxième partie dans un peu moins de 4 minutes maintenant. Deuxième partie de Radio Foot. Et se pencher sur le cas du Paris Saint-Germain et bien entendu sur les adieux de Zlatan. Quand même.
Radio Foot International.
Christophe Jousset.
Radio Foot, la deuxième partie, toujours avec Hervé Penaud, Jean-Philippe Bouchard et Dominique Sévrac. Zlatan avant le match, pendant le match, Zlatan après le match. La star du PSG a pris toute la place samedi soir au Parc des Princes. Il n'y en avait que pour lui et pour cause, c'était son dernier match au Parc. La veille, il avait annoncé qu'il quittait le PSG, il ne lui restait qu'à finir en beauté, et c'est ce qu'il a fait, allant même jusqu'à s'exprimer en français, et oui, à l'issue de la victoire 4-0 sur le FC Nantes.
Je suis très émotionné, je dis, c'est un jour très spécial, après 4 ans ensemble, gagner beaucoup de trophées, merci à Ibrakadabra. Et j'espère les clubs continuer, et j'espère l'équipe gagner beaucoup. Sans Ibra, c'est difficile, mais c'est possible.
Voilà, la dernière pirouette devant, et derrière on voit Verratti avec les yeux rougis par les larmes.
On voit Stambouli mort de rire avec Aurier, et on voit aussi Verratti pleurer.
Ouais. C'était un grand moment d'émotion pour vous, Dominique ?
Ouais, c'est un moment hollywoodien, pas d'émotion, un moment hollywoodien, c'est-à-dire dans la démesure, à l'image d'Ibrahimovic, complètement fou, un match complètement incroyable.
C'était du Kusturica, de ça, quoi.
non, plutôt d'une série B américaine, avec ses rebondissements improbables, le héros qui gagne à la fin et qui a échappé à 15 pièges adverses avec des kalachnikovs et tout ça. Donc voilà, les trucs hollywoodiens, les scénarios.
Voilà, non, mais je trouve la comparaison est bien. Quoi. C'est super, Ibra, c'est super, et puis en même temps, ça fait pas très sérieux. Et on a, c'est un peu l'impression qu'on a quand même quand on si on tire son bilan, parce que là, c'est le moment. Quand ça devient très sérieux, c'est-à-dire un quart de finale de Ligue des Champions, bah là, ça coince. Pour le reste, quand c'est super sympa la Ligue 1 et tout, bah oui, ça rigole.
Jean-Philippe, si on reste sur les 4 ans en
Ligue 1, mais c'est évidemment positif.
Il a changé le visage du PSG, il a changé la Ligue 1.
Pas tout seul.
C'est lui. Évidemment qu'on met en avant.
C'est l'artisan principal. C'est
franchement, on va s'ennuyer sans lui.
Il n'aura jamais raté ses rendez-vous avec la Ligue 1. Là, on l'attendait encore une fois avec un doublé parce qu'il fallait en marquer au moins deux pour battre le record de Carlos Bianchi, d'un joueur du Paris Saint-Germain en première division.
En 31 matchs. Hein. C'est-à-dire qu'il en a manqué 7. Il a manqué 7 matchs.
Il est extrêmement efficace. Il est... Rien à dire sur son bilan, c'est super, on le connaît depuis le début. Hein. En plus, il a été très très peu blessé durant sa période au PSG, ce qui est quand même remarquable pour un joueur de son âge. Donc, qui plus est à ce poste-là, donc il a un bilan très très favorable. Maintenant, c'est vrai que le projet du Qatar avec Zlatan, c'était quand même d'aller très très loin en Ligue des Champions, voire de la gagner.
Tout n'est pas raté, il y avait aussi se faire connaître, il y avait aussi glaner des titres en Ligue 1.
Non, pour ça, il y a une chose qui est quand même importante, c'est pas parce que Zlatan était là que Paris Saint-Germain pouvait pas aller plus haut, parce que Zlatan ça a quand même été celui qui a tiré l'équipe vers le haut, même en Coupe d'Europe. L'élimination cette année contre Manchester City, c'est pas de la faute de Zlatan quand même si au match aller effectivement il rate un penalty, mais ça arrive à beaucoup de joueurs. Après il rate un face-à-face, mais enfin combien d'attaquants ont raté le face-à-face dans leur histoire? Mais des dizaines, que ce soit même Ronaldo ou Messi, il a mis un but, il a mis une tête sur la transversale. Le mec le plus décevant pour moi c'est Di Maria.
Non mais les grands rendez-vous de Zlatan en Ligue des Champions, on n'a rien à en retenir, il a pas été déterminant à plusieurs reprises quand même.
Cette année, il prend un rouge en huitième de finale, ce qui lui fait manquer le quart de finale aller.
Je suis persuadé qu'on va reparler du bilan de Zlatan en Ligue des Champions.
Mais enfin, sur sa sortie.
Revenons sur sa sortie. Parce que ça s'est passé dans des circonstances qu'on n'a jamais vues en Ligue 1.
Totalement ridicule.
Alors d'abord, 10e minute, on arrête le match pour une minute d'applaudissement.
Absurde. Ça dure 20 secondes.
Ça dure
20 secondes.
Oui, une minute d'applaudissement ou une minute de silence.
Totalement absurde que la Ligue accepte quelque chose comme ça.
88e minute, Zlatan sort alors que les trois changements ont été faits.
Il vient de battre le record de Carlos Bianchi.
Et il décide de sortir, après avoir pris ses deux enfants qui sont entrés sur le terrain, de laisser donc ses coéquipiers à 10. Donc toutes les règles sont oubliées.
Ça fait pas très sérieux, effectivement.
Moi, ce qui me fait rire, c'est que quand
c'est incroyable.
Quand Frédéric Thierry a été un petit peu chassé de la Ligue, on a dit, vous allez voir, c'est fini les petits arrangements. changement, les copains et les coquins, vous allez voir, ça va devenir sérieux. On va mettre un directeur général qui va organiser la ligue pour avoir des recettes.
Tout ça au carré.
Très sérieux. Et là, on est un mois après la nomination de Didier Quillot et c'est déjà un match où on fait n'importe quoi.
Exactement.
Les mecs, ils arrêtent le match quand ils veulent, ils font ce qu'ils veulent.
Mais que la ligue accepte ça.
Après, moi, ça me fait marrer, c'est pas grave. Hein. On est là pour rigoler.
Non, mais les enfants auraient pu jouer.
C'est pas ce qu'on a vu de plus grave. Heureusement
que c'est pas grave. Moi, je préfère ça qu'une blessure d'un joueur sur un terrain, évidemment. Mais enfin, c'est totalement absurde. C'est-à-dire que Ibra de lui-même qui décide de sortir du terrain. Ça, on peut rien y faire. C'est Ibra. Ça, lui, c'est Monsieur Ibra décide ce que Ibra veut faire. Bon. Mais que la Ligue accepte qu'on s'arrête une minute ou 20 secondes, hein, suivant le chronomètre, s'il est de la police ou les organisateurs, mais qu'on accepte ça, c'est totalement ridicule. Mais alors imaginez tous les autres joueurs. Alors t'as Alfred, il va sortir du terrain, on va dire t'as Alfred, à Reims c'est un mec hyper important, on va lui faire un truc. À Marseille, Mandanda, vous rendez compte ce que c'est Mandanda? Ben à un moment, comme il y a le numéro 1, la première minute, on arrête de jouer, pendant une minute on joue plus. Et si on accepte tout, mais c'est totalement ridicule. C'est-à-dire qu'on s'est mis à plat ventre devant le PSG, devant Ibrahimovic et devant le Qatar. On s'est mis à plat ventre devant l'argent.
Vanderbilt et Maxwell ont fini leur carrière au Parc des Princes aussi samedi soir, ça a fait moins de bruit.
Alors, vous avez remarqué pour Vanderbilt, c'est sûr.
Maxwell, pas sûr.
Pour Maxwell, c'est pas sûr parce que c'est pas facile de trouver un arrière gauche pour mettre en concurrence Levin Kurzawa. Donc, ils vont peut-être prolonger l'ami Maxwell en laissant Kurzawa devenir numéro 1 et avec un choix sur les matchs de Ligue des Champions qui sera cornélien parce que peut-être que ça sera encore Maxwell qui les jouera à 34-35 ans. Il pourrait avoir plus d'expérience. Mais il a forcément plus d'expérience. Il pourrait être meilleur que Kurzawa dans ces matchs-là, qui est peut-être encore un peu tendre.
Vous pensez qu'on va le revoir? Vous pensez qu'on va le revoir, Zlatan, ambassadeur?
Ah bah samedi prochain déjà.
Non mais
samedi prochain, au Stade de France.
En finale de la Coupe de France.
C'est des trucs qu'on écrit dans des communiqués pour faire bien. On dit il reviendra en tant qu'ambassadeur.
Vous n'y croyez pas?
C'est absolument faux. C'est juste voilà. Comme Ibra nous a qu'est-ce qu'il nous a dit en zone mix que ça faisait un an qu'il avait décidé de prendre sa décision de quitter le Paris Saint-Germain. Il y a trois semaines, il savait même pas ce qu'il allait faire. Le président qui nous a dit c'est d'accord un accord alors que c'est le PSG qui a choisi.
C'est là où Ibra participe très très bien du culte de sa propre personne, c'est que alors qu'il n'est plus désiré par les dirigeants du PSG, c'est quand même ça le fond de la raison de son départ, il arrive à mettre tout ça en scène et à orchestrer sa légende et la mise en scène de sa légende avec l'accord finalement de tout le monde. C'est là où il est très fort.
La seule petite chose, c'est que finalement la seule personne au PSG qui connaît très bien le football, disons la personne qui connaît le mieux le football au PSG, était peut-être pas contre le fait qu'il prolonge. Je pense à Laurent Blanc.
C'est vrai que le staff est déçu.
Bon, en tout cas, il part sur ce record donc de 38 buts marqués.
C'est énorme, parce qu'on aurait voulu écrire un scénario qui marque à la 88 ou 89e minute.
À la fin de match, c'est parfait.
Et la Ligue 1 sera pas pareille la saison prochaine, Christophe. Hein.
Sachant que, oui, c'est sûr.
Non, mais ça va être, je pense, plus serré.
Sachant que le record absolu reste la propriété de Josip Skoblar, qui avait marqué 44 buts sous le maillot de l'OM en 70-71.
Voilà.
Une saison où Salif Keïta avait marqué sous le même maillot aussi 42 buts. Donc 44 et 42.
Ça s'était joué aussi tout à la fin.
Classement des buteurs avec quelque chose.
Ça nous reprend dans un football un peu vintage.
Ouais, hallucinant à cette époque-là.
Maintenant, le plus important, c'est ce qu'on va voir ensemble.
La face cachée des Bleus.
Oui, Duprat.
La face cachée des Bleus, c'est le titre de votre livre, Dominique Sévrac, oui. Aux éditions Mazarine. Donc, dans les coulisses de l'équipe de France, c'est le sous-titre. Alors, qu'est-ce que c'est ce livre? C'est un recueil d'anecdotes, de moments, des scènes décrites.
Merci pour ces moments.
Il y a bientôt un euro, hein, ça vous aura pas échappé. Et puis, l'équipe de France, c'est une passion, c'est un objet journalistique que je suis depuis 19 ans.
19 ans.
Et, voilà. Et donc, j'ai recueilli au fil des années, pas
vous
mal d'anecdotes.
Vous avez commencé très jeune, hein.
et j'ai essayé de rester concentré sur la période de la génération Deschamps. Il est arrivé en 2012 après Laurent Blanc. Donc j'essaie de concentrer le maximum d'anecdotes sur la période 2012-2016.
Ah, c'est la première révélation du livre, hein. Dès la première page, Didier Deschamps a encore des abdos.
C'est vrai, il en a de plus en plus, parce qu'il nous a montré, il a soulevé son pull lors d'une interview de journaliste du Parisien qui sont allés le voir à la Fédération, et il est taillé comme une arbalète, hein, il faut le dire.
Il n'a pas toujours été, mais bon.
Non,
il a bossé.
Il fait des petits séjours à Mérano.
J'en ai parlé dimanche dernier avec lui, je lui ai dit, Didier, t'as bien maigri, et il me dit, je suis à peu près pareil qu'avec Marseille, avec 22 kilos de moins. Donc il avait 22 kilos de plus.
Voilà, 22 kilos de moins, ça commence à faire... Ouais. Non, les abdos sont dessinés, c'est impressionnant.
Alors, bon, plus sérieusement, Deschamps, vous le décrivez comme celui qui incarne le mieux la fonction de sélectionneur depuis Aimé Jacquet.
Oui, parce que alors il y a à la fois grâce à son travail et puis aussi par défaut Santini n'a pas laissé une trace vraiment importante. Domenech, évidemment, c'est un fiasco hallucinant malgré une finale de Coupe du Monde. Laurent Blanc lui-même dit que c'est un échec son passage en équipe de France. Roger Lemaire a été champion d'Europe, mais il y a eu ce fiasco juste après la Coupe du Monde 2002, éliminé au premier tour sans un but marqué, alors qu'on avait trois des meilleurs buteurs en Europe, Angleterre, France et Italie. Donc voilà, pour l'instant, vous me direz dans les résultats, c'est un quart de finale de Coupe du Monde, battu 1-0 contre l'Allemagne avec un match que la France n'a pas forcément véritablement joué, donc ça se voit pas forcément, mais il a quand même transformé le décor. C'est sérieux, c'est solide, il a trouvé quelque chose.
C'est trop dur avec Laurent Blanc.
Pardon ?
Je te trouve dur avec Laurent Blanc.
Non, c'est lui-même qui considère que son passage
est normal,
un échec.
Parce que s'il est éliminé en quart de finale, mais il n'empêche qu'il avait fait 23 matchs sans défaite. Voilà, pour moi, c'est éliminé contre l'équipe qui était la meilleure équipe du monde à l'époque.
Voilà.
Et il sortait de Nice.
Là, je me suis mis à la place de Laurent Blanc parce que moi, si vous me demandez mon point de vue d'observateur, c'est pas un échec Laurent Blanc en équipe de France. Sur les ruines de Nice, il a quand même construit quelque chose. Mais il n'a pas rien laissé à Didier Deschamps.
Quand Didier Deschamps arrive, il n'a pas rien laissé à Didier Deschamps. Mais cette période que vous décrivez aussi, parce qu'en fait, votre livre, il court de la fin de l'ère Domenech. Jusqu'à aujourd'hui.
Oui.
Et quand Deschamps arrive, les insultes vont bon train quand même encore en équipe de France.
Bah on a une petite réplique de Nasri, alors vraiment toute petite pour moi, c'est un épiphénomène. On a Nasri qui insulte les journalistes de l'équipe après avoir marqué un but contre l'Angleterre au championnat d'Europe. On a Hugo Lloris et Jérémy Ménez qui s'insultent sur le terrain avec alors c'est pas des mots qu'on peut répéter à la radio hein, mais c'est des mots c'est la maman, c'est des choses comme ça, d'être le fils de sa maman parfois est un problème pour certains. Il y a une villa qui refuse de serrer la main de son sélectionneur, de son entraîneur à la sortie du terrain. Vous avez Samir Nasri qui insulte un journaliste de l'AFP en zone mixte, mais le journaliste de l'AFP lui avait dit casse-toi. Samir, est-ce que tu veux parler? Le joueur dit non. Eh ben casse-toi, dit le journaliste. Bon, peut-être que c'est pas ce qu'il aurait fait de mieux, ce journaliste. Et là, Samir revient et l'insulte copieusement. Donc bon, il y a eu quand même une ambiance un petit peu délétère à cette fin de championnat d'Europe, qui est pourtant un championnat d'Europe que vous perdez 2-0 contre l'Espagne en quart de finale, futur vainqueur, il y a rien à dire. Mmh. Et pourtant, on a encore ces trucs qui viennent polluer les rapports entre, parce que les médias c'est une interface avec le public, donc le public se rend compte de ce que sont les joueurs à travers les médias, ce qu'ils lisent dans l'équipe, dans le Parisien, dans France Football, là, ce qu'ils regardent sur TF1, ce qu'ils écoutent sur RFI. Donc là, ils ont une opinion. Et si, forcément, il y a une mauvaise relation entre les journalistes et certains joueurs, bah, ça donne pas une bonne image.
Alors, vous revenez sur l'épisode Naïsta, inévitablement, parce qu'on n'en est pas encore totalement, j'allais dire guéri, mais pas totalement sorti. Cette scène que vous décrivez à l'intérieur du car à Naïsta, je sais pas si vous, Hervé et Jean-Philippe, vous l'aviez lu ailleurs, mais bon, vous écrivez Thierry Henry, donc est au fond du car, il reçoit des SMS de joueurs assis à l'avant, lui demandant de mettre fin à ce spectacle pitoyable, donc quand la mutinerie est en train d'être fomentée. Et là, le plus capé des Bleus ne bronche pas, et il refuse de jouer les conciliateurs.
Oui, j'ai essayé de raconter sur des passages qu'on connaisse, qui n'avaient pas encore été sortis. Donc ça, cette anecdote, on ne la connaissait pas sur Nice. Donc vous avez des joueurs évidemment qui tapent, qui font un peu, qui veulent pas que les joueurs descendent du bus parce qu'ils veulent qu'ils restent tous d'accord sur l'idée qu'ils ont eue de rester en basket et de pas venir s'entraîner. Mais vous avez quand même des joueurs au dernier moment qui essayent de se dire bon, là on est en train de donner un spectacle un peu grotesque et il y en a qu'un qui peut mettre fin à la récré, c'est Thierry Henry. Donc ils lui envoient des SMS, ils sont à l'avant, ils peuvent pas sortir de leur siège et voir qu'ils vont parler à Henry, donc ils font ça discrètement. Et Henry, comme il y a eu l'histoire de la main, vous savez, avant, qui a permis à la France de se qualifier pour aller au Mondial, il a contrôlé un ballon de la main, ça a permis à Galas de marquer un but contre l'Irlande. Les Bleus vont à la Coupe du Monde un petit peu dans une sorte de déshonneur, ni Escalette, ni Domenech ne s'excusent ou n'ont un mot. Bon, après, ça fait partie du football, hein. Ce sont des faits de jeu aussi. Et donc voilà, lui, comme il trouve qu'il a pas été assez défendu, que la France l'a pris comme cible, et ben il bronche pas, il reste au fond du car et il répond c'est pas mon problème aux gens qui lui envoient un SMS et qui sont à l'avant.
Alors, vous racontez, donc, vous analysez la popularité des Bleus, la quête pour plus d'enthousiasme et d'adhésion du public autour de cette équipe de France. Un gros enjeu ces dernières années pour la Fédération française de football. Vous nous emmenez à Clairefontaine. Il y a cet épisode du vice-président.
On y va à Clairefontaine avec.
On peut y aller comme on veut.
Oui, on y va. On est dans la chambre du sélectionneur, on est dans la chambre des joueurs.
Oh là là. Visite guidée, monsieur.
Le vice-président, président de la Fédération française de football qui vous dit, à vous et peut-être à certains confrères, c'était à vous directement, parce que vous dites, il nous dit, trop d'Alou, de Mamadou, de Lassana dans cette équipe. Fermez les guillemets. Et vous ajoutez qu'il n'a pas voulu, donc le même monsieur, de Jean Tigana, comme sélectionneur de l'équipe de France, ouvrez les guillemets, parce qu'il est noir. C'était la réponse qu'il vous faisait.
Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je reviens sur le chapitre sur la Marseillaise, sur le lien que les joueurs de l'équipe de France ont avec leur pays, la nation. Il y a eu pour moi pas mal de fantasmes écrits sur des divisions communautaires entre les joueurs de différentes confessions. Pour moi, le racisme est toujours venu des dirigeants de la fédération. Donc, je donne cet exemple. On est une fédération qui, à l'époque, est avenue Iéna. Donc, c'est un peu vieux. Elle parle de Alou. Il y a trop de Alou, de Mamadou dans cette équipe, de Lassana. Mm-hmm. C'est l'époque où Alou Diarra, Lassana Diarra et Mamadou Sakho arrivent en équipe de France. Donc, vous pouvez situer un peu la période. Et c'est extrêmement connu dans les ligues, dans les districts, au sein de la fédération à l'époque. On a des gens qui font comme Monsieur Jourdain du racisme sans le savoir, peut-être, ils s'en rendent pas compte des énormités qu'ils sont en train de dire, mais ils ont des discours xénophobes et racistes. Et ça, c'est l'apanage des dirigeants, c'est pas l'apanage des joueurs. Les joueurs, ils sont en concurrence pour un poste, par rapport à de l'argent, parce qu'ils visent parfois les mêmes filles, parce qu'ils regardent les fringues, ils se regardent la voiture,
les voitures, comparent, les montres de luxe.
Mais ils sont pas racistes entre un joueur de confession musulmane et un joueur catholique comme Cabaye qui fait pas mystère de ses opinions. Du fait qu'il est catholique et très croyant, il y a jamais de tension là-dessus. Et c'est toujours les dirigeants qui viennent mettre leur grain de sel là-dedans.
C'était le vice-président de la fédération.
Oui, il y en avait 5 à l'époque.
Ah, donc ça laisse 5 possibilités parce que vous ne citez pas le nom du...
Oui, il est encore en vie, donc je lui fais cet honneur.
Le seul truc, c'est qu'il y en a 4 autres qui sont décédés.
Alors, sur un ton plus léger, vous nous faites aussi entrer dans les coulisses de notre beau métier. À l'Euro 2008, vous racontez comment vous avez espionné le huis clos de l'équipe de France. 6 heures du matin, vous débarquez avec vos confrères du Parisien chez un couple suisse qui vous ouvre sa porte. Vous avez amené le petit déjeuner.
Voilà, on leur a amené le petit déjeuner parce qu'en fait, on était dans l'ambiance paranoïaque de Raymond Domenech qui fermait tout et il faut qu'un sélectionneur sache que plus on ferme, plus on a envie de savoir, forcément. Alors là, on est plus dans le jeu du chat et de la souris. C'est pas forcément le lecteur qui veut savoir ce qui se passe à l'entraînement, mais c'était plus pour montrer à Raymond que c'est pas la peine de fermer toujours, d'éloigner les journalistes. Et encore une fois, éloigner les journalistes, c'est éloigner le public. Donc on a voulu ce qu'on appelle en jargon craquer le huis clos. Oui. Et donc voilà, avec nos jumelles, nos caméras, on s'est mis à plusieurs kilomètres, mais on a réussi à voir et à faire un live en direct sur le site du Parisien. On a raconté tout ce qui se passait au huis clos alors qu'il y avait un périmètre de police complètement disproportionné.
Hervé Penaud craquait le huis clos.
Absolument. Ça vous dit quelque chose ? De la même manière. Je me rappelle des beaux souvenirs à la Suisse. Et nous aussi, on avait trouvé une ferme, une belle ferme avec vue. C'était assez lointain, avec des bonnes jumelles, vous arrivez à voir, il n'y a pas de souci.
C'était bucolique.
Mais les gens sont très sympas. Parce que quand vous venez vous expliquer, parce que c'est pas toujours évident de voir arriver des gens qui disent on pourrait venir chez vous, regarder un huis clos. Mais attendez, vous avez piqué. Non, c'est juste pour un petit huis clos. Et en Suisse, il y avait aussi à Zurich, là, on était au 8e ou 10e étage, un type super, il nous avait fait des apéros, c'est génial. Ça valait le coup.
C'est des bons souvenirs.
Ah, c'est des bons souvenirs.
Voilà, cette anecdote et d'autres sont dans.
Il y a l'argent, il y a la sécurité, il y a.
Est-ce qu'il y a du sexe ?
Il y a du sexe.
Il y a
il ne pense qu'à ça quand il ne joue pas au football, c'est ce qu'écrit Dominique Sévrac. Donc ça vous donne une idée de.
Ils ne sont pas les seuls à penser à ça.
Non, il y en a d'autres. Enfin bref, la face cachée des Bleus, Dominique Sévrac. Aux éditions Mazarine. Ah, petite. J'aurais bien repris un petit. Non, on l'a plus. Il n'est pas parti. Eh bien, on va prendre la direction de l'Angleterre immédiatement. Non, parce qu'il y a Bruno.
Penser à ça, peut-être.
Il y a Bruno Constant qui nous attend en Angleterre. Bonjour, Bruno. Oui,
professionnel. Bonjour à tous.
Alors, Manchester United Bournemouth, 75 000 spectateurs à Old Trafford samedi et évacuation du stade, c'est l'ordre qui a été donné après la découverte d'une bombe qui était factice finalement, c'est ce qu'on a appris hier nuit. Le plus frappant dans l'histoire, c'est que tout ça est le fruit d'une erreur, Bruno.
Bah, tout ça est le fruit d'un énorme fiasco, on peut le dire. Hein.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est un engin, en fait, qui avait été resté là après, dans le cadre d'un exercice, un entraînement d'une compagnie privée. Et il se trouve que l'engin était installé là depuis mercredi. Et ce qui est d'autant plus inquiétant d'ailleurs, c'est que personne dans la sécurité du stade n'avait noté ça. Donc voilà, Manchester United un peu ridicule sur le coup, et surtout qui se retrouve à devoir rembourser les billets des supporters. Il y a beaucoup de supporters qui se sont plaints, notamment moi je connais des supporters mancuniens français qui sont venus de Metz, qui sont venus de Bordeaux, qui avaient les frais d'avion, de train, de voiture de location. Enfin c'est vraiment un fiasco total. Et puis on avait un petit peu un ton d'humour en disant que finalement la défense de Manchester United était à l'image de la sécurité du stade, c'est-à-dire que c'était une énorme passoire et que voilà.
Ouais. J'ai même vu qu'un supporter venu de Sierra Leone pour voir Manchester United avait fait l'objet d'une cotisation entre les supporters de United pour lui repayer un aller-retour pour la finale de la Cup qui est encore à venir.
Ah ouais, mais il y en a même d'Indonésie qui sont venus. C'est vraiment c'est un carnage. Hein.
Ouais. Quel dommage. Donc ce match donc sera rejoué finalement ce mardi et ça ne change rien au classement du haut du haut du tableau.
J'imagine que la personne qui vient d'Indonésie, elle peut rester 2 jours de plus quand même. Elle n'est pas venue que pour le match.
C'est possible.
Sauf si c'était la fin de son voyage.
Oui. En tout cas, il faudrait que Manchester United gagne par 19 buts d'écart pour que le haut du tableau change.
Ça va être difficile.
S'il recrute Zlatan, peut-être.
Ce qu'il faut retenir peut-être, Bruno, sur cette dernière journée, c'est le fait qu'Arsenal, qui a battu Aston Villa, soit finalement deuxième de ce classement.
Oui, c'est on va dire la maigre consolation des Gunners, c'est d'avoir de terminer devant leur rival de toujours, Tottenham, pour la 21e fois consécutive. On appelle ça la Saint Totteringham Days, le jour en fait qui célèbre l'officialisation du classement d'Arsenal devant son rival de Tottenham. Donc voilà, effectivement, il y avait un peu de baume au cœur, on va dire, mais on reste sur une saison malgré tout décevante. On se leurre pas du tout. Arsenal devait être dans la course au titre jusqu'au bout, il n'était pas. Donc voilà, il y a une petite déception malgré tout sur cette fin de saison.
Ils sont à 10 points de Leicester, le champion. Est-ce que, messieurs, le Arsenal finalement n'est pas le moins décevant de toutes les grosses pointures de Première Ligue?
Ah bah oui, ça c'est un fait.
À
partir du moment où ils sont deuxièmes devant Manchester United, Manchester City qui a un effectif qui est quand même supérieur à celui d'Arsenal. Vous êtes, alors je parle même pas de Chelsea là qui s'est écrasé totalement durant la saison. Non, ils font le moins mauvais parcours de tous les gros candidats au titre et ils ont cette chance de sauter Tottenham sur la fin. Alors c'est vrai que c'est peut-être une maigre consolation,
mais il n'empêche
qu'au final ils font deuxième et une nouvelle fois Arsenal est en Ligue des Champions. Il y a une sorte de continuité au niveau d'Arsenal, au très haut niveau, qui est assez phénoménal, je trouve.
Non, ce qui a été décevant pour Arsenal, c'est qu'ils avaient le titre à leur portée quand même à la mi-saison et qu'ils ont eu un trou d'air très très net qui a profité à Leicester, dont les autres gros ont pas profité. Mais bon, ils étaient déjà largués à ce moment-là. Mais c'est vrai que la déception, elle vient de l'IA. C'est que Arsenal était quasi son propre adversaire cette année par rapport à l'effectif. Hein, et Leicester était quand même...
Ah, mais City était très bien classé. Pendant longtemps, on a pensé que City pourrait sauter Leicester. Hein.
Moi, j'ai toujours pensé que City allait
sauter Leicester.
Hein. Non, la grosse déception, c'est City, mais les dirigeants s'y sont bien pris aussi pour embêter Pellegrini en annonçant que Guardiola allait arriver. Et puis à Chelsea, c'était la fin de l'ère Mourinho, mais ça on savait pas et on l'a découvert pendant la saison, puisqu'ils sont un peu mieux joués quand même quand on a installé Gus Hiddink.
Alors Bruno, pendant qu'on vous tient, la liste, la pré-liste plus exactement pour l'Euro est tombée en Angleterre tout à l'heure. Ils sont 26. Et alors évidemment, le nom qui frappe, c'est celui de Marcus Rashford, 18 ans. L'attaquant de Manchester United, il est dans cette pré-liste. Il a des chances d'être dans la liste définitive ?
A priori non. C'était un petit peu prévu en fait. C'est-à-dire qu'il y avait une liste élargie à 26 joueurs parce qu'il y a encore des matchs avec Manchester United, avec l'Europa League, Liverpool et la finale de la Cup. 3 joueurs de plus en réserviste en fait. C'est le cas donc de Delph et notamment de Rashford. Il est là, mais a priori il y a peu de chances qu'il soit à l'Euro en France. Hodgson compte sur ses 4 attaquants, c'est-à-dire Vardy, Kane, Rooney et Sturridge. Il y a peu de chances que Rashford subtilise une de ces places-là. L'autre surprise, c'était, la demi-surprise, c'était l'absence de Walcott, phénomène. On se rappelle, il y a 10 ans, il était l'invité surprise à l'âge de 17 ans à la Coupe du Monde 2006. Et 10 ans après, du fait de sa méforme, confirme pas du tout le talent qu'il promettait, il est écarté de cette liste au profit de Townsend, le joueur de Newcastle. Et puis l'autre petite surprise, qui n'en est pas une non plus, c'est qu'Olsson prend le pari de venir avec 7 défenseurs. C'était déjà le cas en fait en 2014 au Brésil. Donc là encore, c'est une liste un petit peu comme la liste tricolore, c'est qu'il y a très très peu de surprises finalement.
Oui, mais on a
7 défenseurs au lieu de 8 pour Deschamps.
On
a 8
et puis on aimerait faire une sélection avec les réservistes, quoi. Rashford, Ben Arfa, on aimerait bien que ces gens-là soient à l'Euro. Si on pouvait faire un invité surprise, si l'UEFA nous l'accorde.
Alors Rashford, je rappelle, plus jeune buteur de Manchester United cette saison, enfin de l'histoire de Manchester United en Coupe d'Europe, auteur d'un doublé contre Arsenal, de l'unique but de la victoire sur Manchester City. Hervé, Jean-Philippe, petit jeune comme ça à l'Euro.
Mais sûr que c'est un phénomène.
Ça fait envie.
Mais c'est pas parce qu'il viendra dans l'équipe d'Angleterre qu'il jouera. Parce que le problème aujourd'hui, effectivement, c'est qu'il est quand même un petit peu derrière. Parce que vous pouvez pas prendre la place de Vardy avec 6 mois de première ligue derrière vous. Vous pouvez pas prendre la place même Rooney, parce que Rooney c'est quand même un cadre essentiel dans ce groupe, même si on sait qu'il y a quelques soucis.
C'est capitaine.
Une tradition hein, ces dernières années en équipe d'Angleterre d'avoir un jeune, on peut remonter même jusqu'à Rooney qui avait été sélectionné aussi il y a 18 ans. Et on parlait de Walcott tout à l'heure. Bon, la tradition aussi, c'est que l'Angleterre elle fait rien dans les tableaux finales des grands tournois.
Il faudrait briser la tradition. Merci Jean-Philippe Bouchard, Dominique Sévrac, Hervé Penaud et Bruno Constant au téléphone en Angleterre. C'est la fin de ce Radio Foot. On se retrouve demain, toujours avec le même plaisir. Et on remercie Guillaume Ploquin et Jean-Pierre Bessière.
Tous les jours.